France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informés sur France Info à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. Au menu ce soir, les enjeux de la visite d'État de Xi Jinping en France, le président chinois qui est arrivé à Paris ce dimanche, enjeux politiques, diplomatiques et commerciaux. Nous verrons ce qu'en attend notamment Emmanuel Macron, le président français qui a répondu aux questions des journalistes de la Tribune dimanche et de la Provence pour le 7e anniversaire de son arrivée à l'Élysée et à un mois des européennes. Que doit-on en retenir? Nous en débattrons. Et puis la reconstitution aujourd'hui à Nanterre dans l'affaire Naël, ce jeune homme tué en juin 2023 par un tir de policier. Près d'un an après, nous ferons un point sur l'enquête et sur le thème des violences policières. Pour parler de tous ces sujets, Isabelle de Golemin est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédactrice en chef au journal La Croix. Amélie Le Breton, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de l'agence de communication Coriolink. Raphaël Kahn, journaliste à France 24, présentateur de l'émission Le Monde dans tous ses états. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Victor.
Et Alban Micosi, bonsoir.
Bonsoir Victor.
Journaliste
bonsoir
à France Info TV, ancien correspondant en Russie et en Italie. C'est parti pour une heure de débat. Avant les Pyrénées, mardi, sur les terres familiales d'Emmanuel Macron, là où celui qui n'était pas encore chef de l'État venait à l'époque rendre visite à sa grand-mère, avant l'Élysée, demain pour une rencontre officielle avec notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Eh bien, Xi Jinping est arrivé ce dimanche en France pour une visite d'État accueillie par le Premier ministre Gabriel Attal. Cette venue en France et même en Europe est la première pour le dirigeant chinois depuis 2019. L'eurodéputée Renaissance Nathalie Loiseau était ce matin l'invité de France Info.
Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine aussi. Nous avons la dissuasion nucléaire, la Chine aussi. Nous avons une vision du monde et nous voulons le faire savoir avec beaucoup de courtoisie, mais aussi sans complaisance, à la Chine. Et ce que je trouve important dans la façon dont Emmanuel Macron va recevoir Xi Jinping, c'est que comme il l'avait déjà fait il y a quelques années, il fait venir la présidente de la Commission européenne. C'est-à-dire que la Chine, quand elle parle avec nous, elle sait qu'elle parle à l'ensemble des Européens.
Voilà, Nathalie Loiseau, déterminée aussi, dit-elle, à se faire respecter. Ça veut dire, Alban Micosi, que jusque-là, nous ne sommes pas respectés, Français et Européens, par la Chine?
Ça veut dire que les accords commerciaux sont quand même très déséquilibrés. Le déficit commercial, c'est quand même 50 milliards d'euros. Donc, au moins sur le plan économique, la France et l'Europe peuvent avoir l'impression que la Chine passe au-dessus d'un certain nombre de règles qui sont appliquées en Europe. Et puis, politiquement, on va y revenir évidemment, la relation, elle n'est pas toujours équilibrée non plus, dans la mesure où la Chine écoute les arguments de l'Europe, n'en tient souvent pas compte sur un certain nombre de dossiers. Et c'est pour ça que l'extrait de l'interview qu'il accorde au Figaro, enfin plutôt de sa chronique dans le Figaro,
de sa
tribune dans le Figaro de demain, il dit qu'avec la France, on va participer à la résolution de la crise en Ukraine. Bon, il va y avoir du chemin. Hein.
Voilà, on va y revenir. Raphaël Kahn, c'est un jeu d'équilibriste. Il faut à la fois se faire respecter, mais ne pas froisser le président chinois.
Oui, il faut. Alors, la difficulté d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer d'instaurer un rapport de force avec la Chine. C'est pour ça qu'il le dit souvent et il souhaite parler en européen à la Chine, d'où la présence d'Ursula von der Leyen demain à l'ouverture des négociations avant le début formel de ce qui sera donc la visite d'État du président Xi Jinping ici en France. Le but étant effectivement d'imposer une masse critique face à la Chine, face à son marché. Et ça, bien sûr, la France ne peut pas le faire seule. Et alors, on voit évidemment tout l'art et parfois aussi la rouerie de Xi Jinping dans la négociation, puisque dans sa tribune, il n'est quasiment pas fait mention, en fait, de l'Union européenne. Alors, il le dit effectivement lorsqu'il évoque l'Ukraine. D'ailleurs, ça doit résonner un peu comme du miel à l'oreille des Européens, de dire qu'il a compris à quel point ce conflit revêt une importance pour le continent. Mais pour le reste, il parle vraiment de relations sino-françaises, parce que c'est vrai, la France avait pris date en reconnaissant très tôt, il y a 60 ans, la Chine populaire. Et il veut véritablement inscrire cette visite dans cette seule relation. Et puis, comme camouflé aux Européens, c'est quand même deux Européens, disons, assez peu européistes qu'il va rencontrer par la suite, puisque sitôt conclue cette visite dans les Pyrénées, hein, chez... d'une certaine manière, chez la grand-mère,
de
Bigorre, il va se rendre en Serbie, en Hongrie, c'est-à-dire des partenaires du forum de coopération 17+1 mis en place par la Chine.
Et des alliés de Moscou.
Qui a pour but principal, effectivement, de court-circuiter l'ensemble européen pour privilégier des relations bilatérale parce qu'il sait qu'il est beaucoup plus fort face à des États individuellement plutôt que face à l'ensemble européen, Xi Jinping.
On l'a dit, Isabelle de Golemin, sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron veut donc dissuader Xi Jinping de soutenir trop fortement Vladimir Poutine et la Russie face à l'Ukraine. En vérité, est-ce que le président chinois a tellement envie, lui, de s'investir plus dans ce conflit, on va dire? Il le dit ce soir, on va le rappeler, hein, dans cette tribune dans le Figaro, il dit vouloir œuvrer avec la France et toute la communauté internationale à résoudre la crise en Ukraine.
Il a quand même peut-être pas intérêt à ce que ce conflit dure trop longtemps, ne serait-ce que du point de vue de ses intérêts commerciaux. Il a peut-être pas non plus intérêt à ce que la Russie soit trop forte. En même temps, c'est vraiment grâce à la Chine que la Russie a pu avoir cette espèce de résilience qui est complètement incroyable, résilience économique, militaire, qu'elle a pu complètement se construire sur une économie de guerre, parce que c'est la Chine qui lui fournit en ce moment tous les armements, l'artillerie, etc. Donc en fait, il n'y a pas d'aide directe de la Chine à la Russie de ce point de vue-là, mais c'est une aide indirecte qui est extrêmement précieuse, hein, qui est à la fois sur tout ce qui est armement, tout ce qui est machine-outil, tout ce qui lui est nécessaire aujourd'hui pour se battre et pour continuer à marcher économiquement, alors qu'elle s'est vue privée de tous ses partenaires européens.
Donc, et du coup, comment vraiment comprendre les mots de Xi Jinping ce soir dans le Figaro, qui veut œuvrer avec la France
et la communauté internationale. Il voit bien qu'un trop gros déséquilibre en Europe, c'est bon pour personne et c'est pas bon pour la Chine. C'est vrai que les relations quand même entre la Chine, depuis le Covid, entre la Chine et l'Europe, ont beaucoup diminué, et qu'il y a sans doute cette volonté aussi de remettre un peu les choses à niveau. Je sais que, par exemple, ne serait-ce que pour le tourisme, la Chine vient de faire un effort assez important pour permettre aux touristes européens de venir en Chine sans avoir de visa, au moins pour 15 jours, voire 3 semaines, parce que, en fait, les choses se sont beaucoup coupées. Donc je pense que l'économie de la Chine, elle a intérêt aujourd'hui à quand même avoir une Europe forte et pas forcément une Europe avec un conflit. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, on se dit, bah voilà, Emmanuel Macron, il va faire de la diplomatie, c'est-à-dire que c'est quasiment mission impossible.
La visite d'État du président chinois en France, on continue à en parler dans un instant, 20h10.
20h, 21h, les informés, Victor Mattey.
Xi Jinping est arrivé en France aujourd'hui, première visite d'État pour le président chinois dans notre pays depuis 2019. On l'a dit ce soir, une tribune dans le Figaro pour Xi Jinping. Il y a eu ce matin cet entretien aussi dans la presse pour Emmanuel Macron. Amélie Le Breton, il y a une sorte déjà de bataille de communication qui se lance.
Alors il y a une bataille de communication. Il y a surtout,
avant même la rencontre.
Il y a surtout une volonté de communiquer dans les deux sens pour s'adresser plus largement entre présidents. C'est-à-dire que le président chinois s'adresse aussi à une partie de la population, aux acteurs économiques et aux citoyens français, de la même manière que Emmanuel Macron, en prenant la parole sur la Chine, s'adresse directement à son homologue chinois, mais s'adresse aussi à ses partenaires européens, s'adresse à ses citoyens, s'adresse aussi aux associations sur les droits de l'homme. Enfin bref, donc c'est un jeu d'équilibriste qu'ils doivent mener tous les deux. Je pense que ça fait plusieurs semaines que les crayons des diplomates sont en train de s'user pour savoir quels mots il faut utiliser pour pas justement brusquer telle ou telle partie de la population ou tel partenaire. Ce qui est certain, c'est que, on le rappelait tout à l'heure, les relations bilatérales, la Chine est obligée de les soigner. Et donc, dans la façon dont le président chinois arrive en France, il est obligé de déclamer un peu, alors pas son amour pour la France, on n'ira pas jusque-là, mais en tout cas, ce qu'il estime être intéressant pour du peuple français de ce pays qu'est la France, parce qu'il doit montrer des atouts dans la relation bilatérale, parce qu'au niveau du bloc européen, il sait qu'il a plus à perdre si les États membres font bloc. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans tous les articles qu'on a pu voir ces derniers jours, on sait que le président français, il le dit ouvertement, les journalistes et donc à l'Élysée, qu'il a pris, il a pris le temps d'en parler avec le chancelier allemand de ce qui allait se passer pendant cette rencontre pour savoir comment est-ce que l'Allemagne et la France étaient au diapason dans les termes qui allaient être utilisés pour les échanges bilatéraux.
Voilà, faire en sorte que ce soit l'Europe qui s'exprime et pas seulement la France. On parlait des enjeux commerciaux, Alban Micosi, que peuvent réellement obtenir la France et l'Europe, justement.
Il y a beaucoup de dossiers. Alors, officiellement, ce n'est pas une visite qui générera beaucoup de contrats.
Contrairement à 2019.
Voilà, me disait Arnaud Millet, notre correspondant en Chine. Mais il y a trois aspects qui vont être particulièrement regardés. Celui, évidemment, sur les voitures. Parce que, notamment pour les Allemands, c'est particulièrement important. Vous savez, les Chinois produisent 50 millions de voitures par an. Ils vont en vendre 25 millions sur le marché intérieur. Ce qui veut dire qu'il y a 25 millions de voitures à vendre ailleurs, principalement en Europe, selon les sources industrielles chinoises. Pour l'Europe, ça fait 9 mois de stock. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire plus aucune vente. Donc, et ils estiment, les constructeurs européens, que les constructeurs chinois sont aidés de manière injuste par leur propre gouvernement, au détriment d'ailleurs d'un certain nombre de normes environnementales que nous appliquons en Europe. Donc, faut-il surtaxer les véhicules chinois ? Ça fait partie des thèmes de discussion. Et Arnaud me disait, il en va de même pour l'énergie solaire ou pour l'éolien, où ce sont exactement les mêmes questions qui vont se poser.
Il y a aussi d'autres enjeux commerciaux allemands.
Bien sûr. On parlait tout à l'heure, Raphaël parlait très justement de la route de la soie. La route de la soie, ce sont donc ces pays européens qui veulent aider la Chine, et la Serbie est l'exemple parfait, puisque la Serbie et le Monténégro financent actuellement une autoroute, travaillent sur une autoroute avec de l'argent chinois d'ailleurs, qui permet au port de Bar, qui est le grand port du Monténégro, d'être la porte d'entrée des matériel et des marchandises chinois en Europe centrale. Il faut savoir que la Chine va accorder une importance particulière à ces deux visites en Serbie et en Hongrie. En Serbie, pour vous donner une idée, ils vont inaugurer la plus grande représentation culturelle qu'ils aient en Europe, c'est-à-dire même plus grande qu'en Europe occidentale, dans l'ancien bâtiment de l'ambassade de Chine qui avait été bombardé par les Européens lors, vous savez, des bombardements sur Belgrade. Donc, il y a un certain nombre de symboles. La Chine manie parfaitement les symboles et elle veut montrer qu'elle est prête à écouter l'Europe occidentale, la France, peut-être, pourquoi pas, faire un certain nombre de pas en avant sur quelques questions commerciales, mais que fondamentalement, l'idée de la diplomatie chinoise, c'est-à-dire que c'est plus un tête-à-tête avec l'Europe occidentale, mais que la diplomatie est multipolaire, ça sera le mantra de base de la diplomatie chinoise.
La diplomatie, Raphaël Kahn, vous voulez rajouter quelque chose ?
Pour moi, il y a deux grands absents dans cette visite, mais qui sont évidemment dans les têtes. Il y a l'Allemagne, on l'a évoqué, parce que Olaf Scholz a des intérêts divergents, en tout cas l'Allemagne d'Olaf Scholz a des intérêts divergents de la France. Vous l'évoquiez avec le cas de l'automobile. Il y a effectivement des surcapacités chinoises aujourd'hui qui ne demandent qu'à s'écouler en France, d'où la question d'ailleurs d'un relèvement des droits de douane. Mais à l'inverse, le marché chinois représente pour l'automobile allemande un énorme marché, un 40% des exportations. Donc, il y a évidemment aujourd'hui un enjeu énorme côté allemand qui ne souhaite pas forcément déléguer à l'Europe, par le biais d'Emmanuel Macron, son propre pouvoir de négociation, car les intérêts allemands ne sont pas convergents de ce point de vue-là avec les intérêts français. Et puis, autre acteur absent, ce sont évidemment les États-Unis, parce qu'ont engagé un bras de fer direct avec la Chine et qu'Emmanuel Macron ne veut pas se faire piéger face à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui est en fait une politique de subvention déguisée à l'industrie américaine, et de l'autre côté, un marché chinois qui en permanence restreint de plus en plus aux importations en provenance de l'étranger. Emmanuel Macron, il l'a dit dans son discours de la Sorbonne, souhaite véritablement sonner le réveil européen avec une réorientation sans doute protectionniste de l'économie européenne. Et de ce point de vue-là, la France est plutôt bien placée car elle n'est pas alignée sur les États-Unis. Pour preuve, nous ne faisons pas partie de l'AUKUS. On s'en souvient, l'échec cuisant des sous-marins français.
Isabelle de Golemin.
Oui, donc juste pour rajouter que justement avec l'Allemagne, les positions se sont quand même pas mal resserré. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant longtemps, l'Allemagne et la France étaient complètement opposées par rapport à la politique commerciale en Chine. L'Allemagne étant beaucoup plus ouverte parce que c'était son grand partenaire. Et aujourd'hui, elle a compris d'abord qu'elle s'était un peu fait avoir sur le problème des subventions. Et puis le monde a changé, hein, de toute façon. Et elle est quand même beaucoup plus maintenant encline à écouter toute cette rhétorique de la souveraineté commerciale que manie effectivement Emmanuel Macron depuis quelques années. Donc j'ai l'impression que là, ce qui est nouveau peut-être par rapport à 2019, c'est que la Chine, l'Allemagne et la France sont quand même sur à peu près le même positionnement par rapport aux échanges commerciaux. Et ça doit un peu gêner la Chine.
On parlait de diplomatie, Amélie Le Breton, Emmanuel Macron, on parlait de l'Ukraine tout à l'heure, veut aussi demander à son homologue chinois de soutenir la trêve olympique concernant les conflits dans le monde entier à l'occasion des Jeux de Paris, bien sûr, l'été prochain. Cela aurait un poids très important que Pékin soutienne cette trêve.
Alors oui, à deux titres, ça aurait un poids important parce qu'évidemment, vis-à-vis des relations géopolitiques au niveau mondial, ça pourrait envoyer un signal fort vis-à-vis de l'Ukraine ou de la Russie. Et puis, au-delà de ça, si c'est Emmanuel Macron l'émetteur de cette demande, ça lui permettrait aussi de montrer qu'il est en capacité, alors j'utilise un mot qui est un petit peu fort, mais d'influer gentiment sur ce que peut décider le président chinois. Bon, on n'est pas sûr qu'il arrive à ce terme-là, à cette conclusion-là, dès ce voyage-là. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Et puis, on sait que les Russes vont rencontrer, Vladimir Poutine, le président de la Russie, va rencontrer très, très rapidement, après sa venue en France, le président chinois, puisqu'il va en Chine juste après qu'il ait fait son tour d'Europe, le président chinois.
La diplomatie, c'est aussi le Proche-Orient, bien sûr, et les droits de l'homme. On en dira un mot dans un instant, 20h20 d'abord.
20h, 21h, les informés, Victor Mattey.
L'actualité ce soir dans les informés, c'est aussi ces deux personnes tuées dans une nouvelle fusillade à Sevran. Pour en parler, nous sommes avec Reda Mellaj du syndicat Unité Police. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez des précisions sur ce qui s'est passé ce soir ?
Bah écoutez, on sait qu'il y a quelques heures, j'ai été informé qu'au moins deux individus s'étaient fait tirer dessus. Un était décédé sur le coup et apparemment on a essayé de réanimer le second, mais il est décédé quelques minutes plus tard.
Est-ce qu'on sait si ces événements sont en lien avec la première personne tuée déjà vendredi soir sur fond de trafic de drogue ?
Alors, on sait que il faut laisser l'enquête se faire, bien sûr. La première enquête d'hier soir a été confiée à la brigade criminelle de Paris. Mais on sait que ce qui se dit dans les quartiers, en tout cas, c'est que il y a déjà eu un match aller mercredi avec un individu, un gérant point stup, qui s'est pris une balle dans la nuque mercredi place Jupiter à Aulnay-sous-Bois. Et il semblerait, ça correspondrait à un représailles hier soir avec sept personnes qui sont fait tirer dessus, dont un qui est décédé, et puis donc originaire de Sevran cette fois-ci, et deux autres individus qui sont décédés cet après-midi et qui sont originaires d'une cité de Sevran également. On sait que sur cette affaire, ce qui se dit dans les quartiers, je dis bien c'est ce qui se dit sur le terrain et dans les quartiers, c'est que on sait qu'il y a deux bandes rivales, une bande d'Aulnay et une bande de Sevran, qui se battent pour un point de deal. Actuellement, c'est la bande de Sevran qui tient un point de deal sur Aulnay, et il semblerait qu'une bande rivale de Aulnay veuille récupérer ce point stup. C'est les infos du terrain, hein, c'est pas les infos de la PJ.
On comprend bien, ces deux hommes d'une trentaine d'années étaient connus, nous dit-on, pour violence et trafic de stupéfiants. Est-ce que là aussi, vous avez une confirmation ?
Oui, ils sont connus défavorablement des services de police pour trafic de stup, oui, tout à fait.
Que dire de Sevran ? On se souvient de cette opération Place Nette, hein, fin mars, organisée par le ministère de l'Intérieur contre le trafic de drogue. L'importance aujourd'hui du trafic de drogue à Sevran et en Seine-Saint-Denis ?
Oui, écoutez, déjà l'importance du trafic de drogue sur la Seine-Saint-Denis, c'est une plaque tournante de l'Île-de-France en termes de trafic de stupes. On sait que on est en difficulté dans beaucoup de quartiers de ce département. C'est le département le plus criminogène de France. Donc, vous vous doutez bien que ce qui se passe sur les autres départements, vous le multipliez par deux ou trois sur la Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est très compliqué pour nous. Il faut absolument qu'on ait des renforts en effectif de manière pérenne, parce que ça va être compliqué de parer à ce genre de méfaits.
Trois morts en 48 heures dans la même ville, c'est tout à fait inédit pour vous ?
C'est inédit, mais bon, alors là, on a deux morts d'un coup, mais... sans minimiser les choses, évidemment, d'habitude, vous avez, y a une cible, voire deux cibles maximum. Mais ce qui est impressionnant, c'est surtout l'attaque d'hier où on a tiré plus de 20 cartouches, s'il semblerait, de Kalachnikov sur 7 individus, et on a impacté les individus. Donc on veut vraiment, là, on cherche pas à dissuader, on cherche pas à faire peur, on veut tuer. Et on veut récupérer son territoire. Mais là, 9 personnes visées en 48 heures, j'ai jamais vu.
Ça veut dire que la violence monte encore d'un cran ?
Ben, ça veut dire que déjà, on est surpris, parce que d'habitude, on s'attend à une riposte de la partie adverse. Mais là, en fait, c'est un deuxième match aller, en fait. Donc, il y a eu une vendetta par rapport à ce qui... Il semblerait que ce soit ça. Je dis bien, il faut attendre la fin de l'enquête, mais ce qui se dit sur le terrain, en tout cas, il y a eu une première vendetta hier soir, par rapport à l'individu qui a été abattu mercredi, mais la vendetta n'est pas terminée. C'est ça qui est inquiétant. Donc après, il faut s'attendre peut-être à une riposte de la bande de Sevran.
Merci Reda Mellaj d'avoir réagi en direct sur France Info dans Les Informés. Après donc cette nouvelle fusillade dans la ville de Sevran, deux hommes tués 48 heures après un premier règlement de compte lié au narcotrafic. Peut-être un mot, on en discutait tout à l'heure, Raphaël Kahn, effectivement une réaction à cette nouvelle fusillade.
Alors on n'a évidemment pas encore d'éléments d'enquête, hein. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si effectivement il est avéré que ces trois morts en 48 heures, hein, vous l'avez dit, sont le fait de règlements de compte dans cette ville de Sevran qui était déjà connu hein, pour des faits similaires, puisqu'on s'en souvient, d'abord le maire actuel Stéphane Blanchet, mais surtout son prédécesseur Stéphane Gatignon, a longtemps communiqué dans les médias sur la nécessité de modifier l'approche dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors pendant longtemps, c'était le cannabis qui était le principal problème dans cette ville de Sevran, et lui-même avait milité pour la dépénalisation. C'était l'une des principales voix hein, ici en France qui se portait, considérant effectivement qu'en tant qu'édile, il avait un peu fait le tour de la question en matière répressive. Et on voit les pouvoirs publics n'ont pas changé d'approche sur la question de la prévention, mais en tout cas sur celle de la répression. On se souvient que Éric Dupond-Moretti, pas plus tard que la semaine dernière, a plaidé pour la mise en œuvre d'un parquet national en charge de la lutte contre le crime organisé, c'est-à-dire prendre à bras-le-corps le problème pour ce qu'il est, comme on le voit par exemple déjà à Marseille, c'est-à-dire un problème réellement endémique, éviter que la France ne devienne les Pays-Bas ou la Belgique, et s'inspirer des mesures qui ont déjà été mises en œuvre en Italie, par exemple.
Un volet judiciaire après le volet sécuritaire sur le terrain, on l'a vu, hein, Isabelle de Golemin, après toutes ces opérations, j'en parlais tout à l'heure rapidement, ces opérations PlaceNet ou PlaceNet XXL.
Oui, qui atteignent, en fait, y compris alors les villes de la banlieue parisienne, des villes en région et des villes moyennes aussi. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est européen. Et ça nécessite sans doute une réponse européenne. C'est-à-dire que le cas aujourd'hui d'Anvers, de Bruxelles, aux Pays-Bas, etc., c'est quand même assez dramatique. Donc je pense que, et peut-être d'ailleurs que ça a aussi à voir avec la Chine, parce qu'on sait très bien d'où vient un certain nombre de trafics de stupéfiants. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il faut qu'au niveau européen, il y ait une espèce de... On se ressaisisse si on ne veut pas devenir un espèce de champ ouvert au trafic. Enfin, c'est vrai que c'est quand même très impressionnant comment le niveau, l'augmentation de ces violences et le niveau de ces violences a augmenté depuis quelques années, y compris dans des villes qui autrefois, enfin moi je pense à Nîmes par exemple, des villes qui n'étaient pas concernées par ça, quoi.
En un mot, Amélie Le Breton.
Et ça pose aussi la question de l'humidité de la communication politique, parce qu'on l'a vu, hein, Gérald Darmanin a beaucoup pris la parole et avec raison. Hein, il affichait ses ambitions avec ses opérations PlaceNet, et on voit bien que les photos des ministres et les vidéos du ministre dans les banlieues avec les policiers sont mises à mal par ce qui se passe aujourd'hui, parce que justement il y a deux réalités qui s'affrontent. On veut faire le ménage d'un côté, mais le chemin est très long.
Avec ces deux hommes donc tués par balle ce soir, on le rappelle, cette fusillade à Sevran en Seine-Saint-Denis. Restez bien avec nous, les informés reviennent dans un instant pour la seconde partie.
20h, 21h, les informés. Victor Mattet.
Nos informés ce soir dans le studio de France Info, Isabelle de Golemin, rédactrice en chef au journal La Croix, Amélie Le Breton, présidente de l'agence de communication Coriolink, Raphaël Kahn, France 24, votre émission Le Monde dans tous ses états, et Alban Micosi, journaliste à France Info TV. Nous évoquions la venue du président chinois. Il en a bien sûr été question dans l'interview qu'a accordé Emmanuel Macron à la Tribune dimanche et à La Provence, le chef de l'État qui s'exprime à l'occasion de ces 7 ans passés à l'Élysée. Ce sera mardi exactement, il y a un mois, des élections européennes. Je vous propose d'écouter Ludovic Vigogne, journaliste politique à la Tribune dimanche et l'un des intervieweurs du président.
Emmanuel Macron voit bien que la situation de son camp aux européennes s'annonce très difficile. La liste conduite par Valérie Ayer est largement reléguée sous les 20% dans les sondages. Elle est très largement distancée par Jordan Bardella. Le risque est que la majorité présidentielle connaisse un vrai désaveu le 9 juin. Et donc Emmanuel Macron a décidé de s'impliquer totalement dans la campagne. Mais quand on connaît son caractère, c'est pas tout à fait une surprise. On sait très bien que c'est lui qui a choisi la tête de liste, que c'est lui qui a composé la liste qui vient d'être dévoilée, que il a mis les mains très concrètement dans la composition du projet qui sera dévoilé demain. Donc Emmanuel Macron est quelqu'un qui est, c'est le chef de campagne, c'est le vrai directeur de campagne.
Emmanuel Macron, directeur de campagne de ces européennes. Je ne peux pas vous dire que ces élections sont essentielles et ne pas m'impliquer, dit-il par ailleurs, le chef de l'État. Il pourrait s'impliquer encore plus, selon vous, Alban Micosi ?
Alors, les services politiques ont l'air de le penser, mais là où je rejoins effectivement ce que vous dites et ce que dit Ludovic, mais avec une phrase qu'on a notée quand même, il semble enjamber un peu le résultat, quoi qu'il arrive, puisque il écrit, c'est l'élection des députés européens, la conclusion sera donc européenne, et la semaine suivante, j'irai à Bruxelles pour les nominations. De toute façon, ce qui est évident, ce qui se joue réellement, c'est la composition de la commission prochaine. Dans cette commission prochaine, Ursula von der Leyen, qui d'ailleurs sera avec Emmanuel Macron demain, fait quand même figure de très très grande favorite. Donc en réalité, Emmanuel Macron, tout à la fois, tient compte de ces élections, dit qu'il va s'impliquer davantage, mais dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, le résultat sera à lire à travers un prisme européen.
Raphaël Kahn, ça veut dire que voilà, finalement, il faut considérer cette élection, qui est d'ailleurs une élection européenne, mais qu'on a l'habitude de lire avec un regard national. Ouais. Emmanuel Macron dit, bah, les européennes, c'est les européennes.
Il y a belle lurette, de toute manière, qu'un chef d'État ne démissionne pas sur un échec électoral. Hein. On l'a vu avec les dissolutions qui n'ont pas...
Sans parler de démission, voilà, il pourrait y avoir d'autres conséquences.
On l'a vu avec des échecs au référendum. En gros, depuis De Gaulle et la régionalisation, il n'y a pas eu de démission. Donc, il n'en tirera effectivement pas de conséquences nationales, malgré ce que... L'échec, si
on pense plutôt à un remaniement, un changement de Premier ministre, des choses comme ça.
Parce que le Rassemblement National, lui, compte, hein, dès le soir du scrutin, c'est ce qu'a dit Jordan Bardella, exiger une dissolution, un remaniement. Bon, c'est, Emmanuel Macron l'exclut totalement. Il ne lira effectivement le résultat de ces élections que par le prisme européen, comme l'a dit Alban, c'est-à-dire, en gros, ce que pèsera non pas Renaissance à l'échelle française, mais Renew à l'échelle européenne, qui restera... certainement, effectivement, une force qui compte, si ce n'est l'une des principales du Parlement européen.
Et membre probable de la majorité future du Parlement européen.
Tout à fait.
Amélie Leroy.
Et cette stratégie de cette élection est européenne, donc je vais en tirer, enfin c'est pour le président, des conclusions.
C'est pas bon.
Voilà, pas moi, au niveau européen. Et bien, en fait, c'est assez attendu, puisque quand on n'est pas vainqueur, forcément, c'est plus facile de dire que ce n'est pas moi, mais c'est pour l'autre qu'on va faire cette élection. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il se présente dans cette interview en parlant de ses 7 ans, et donc comme un peu d'une interview bilan. Bon, en fait, il parle aussi très peu de son bilan, parce que, soyons très clairs...
Il reconnaît des fautes.
Alors, il reconnaît des fautes à demi-mot, quand même. Et d'ailleurs,
il dit des erreurs. Hein.
Des erreurs, pardon.
Et d'ailleurs, sa contrition, elle est surtout sur le terme des mots. Il dit, j'ai eu des mots maladroits. Mais les mots, c'est pas les actions. Donc, les mots, c'est moins grave. Hein. Donc, c'est plus facile d'être pardonné sur des mots, parce que la langue peut fourcher. Alors que, on attendait, évidemment, qu'il puisse faire, dans une interview bilan, un vrai bilan construit. Mais, soyons très lucides, cette interview n'a comme objectif principal que de se mettre dans la bataille des européennes. Et pour montrer que, justement, il fait des choses. Il parle aussi de la Chine. Il parle de beaucoup de choses pour montrer qu'il a la main. Et que, forcément, ce serait le parti de la majorité, donc, Renew avec Renaissance, vers lequel il faut que les électeurs aillent, puisque c'est lui qui peut dicter sur les prochains mois ce qui peut se passer en France et bien sûr en Europe. C'est assez cohérent.
Pas de vrai bilan, Isabelle de Gaulmin, Emmanuel Macron, qui veut aussi montrer, il insiste sur le fait que il est là, il est toujours là, qu'il lui reste encore quelques années dans ce quinquennat et qu'il a des choses à faire.
Il a quand même pas fini. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal, parce que finalement, c'est quand même sur l'Europe que peut-être son bilan est le meilleur. C'est là où il a eu les intuitions qui ont ensuite été reprises par les autres pays européens. C'est le parti macroniste à Bruxelles a fait quand même pas mal de choses. Et c'est finalement sans doute une élection qu'il va perdre. Donc c'est ça qui est quand même assez, finalement, sans doute pour lui un peu triste. C'est-à-dire que...
Après avoir déjà perdu celle de 2019, certes d'un point seulement, alors que le sondage à l'époque prédisait un plus grand écart, là, on parle d'une défaite, voire d'une débâcle.
En tout cas, ce qui est un peu terrible, c'est que ce système démocratique ne permet pas encore d'avoir des élections sur des vrais enjeux européens, c'est-à-dire qu'on continue à avoir une lecture nationale, en tout cas du point de vue de l'électeur, alors que effectivement, ce qui serait quand même intéressant, c'est de voter pour le bilan Macron ou le bilan Bardella, ou voilà, et là, on voterait sans doute plus en fonction de ce qui s'est passé au niveau européen.
20h, 21h, les informés. Victor Mattey.
Les européennes dans un peu plus d'un mois, et Emmanuel Macron qui dit qu'il veut s'impliquer dans cet entretien à la presse. Dans le même temps, il pousse son Premier ministre Gabriel Attal à y aller. Alban Micosi, on a un peu le sentiment qu'aucun des deux ne veut trop s'avancer pour ne pas être le responsable de la défaite qui s'annonce.
Mais il est d'usage que le Premier ministre soit en réalité le chef du camp majoritaire. Donc il est très probable que Gabriel Attal doive s'engager effectivement publiquement. Il est question d'un débat avec M. Bardella, débat qui aura probablement lieu, puisque en tout cas toutes les chaînes de télévision travaillent dessus, donc ça va certainement se faire. Après, moi, ce que j'ai retenu dans cette interview, c'est ces élections à mi-terme qui n'existent pas dans nos schémas européens, mais finalement c'est ça. Aux États-Unis, après la moitié du terme, vous avez des élections. Et bien finalement, ces élections européennes, elles vont servir à ça. On est au milieu, en gros, du mandat d'Emmanuel Macron, de son deuxième mandat, puis ça sera la même chose en Italie, ça sera la même chose en Allemagne. Et c'est souvent des élections qui sont cruel pour les partis en place, quand bien même ils ont réussi sur le plan européen, comme vous disiez Isabelle, en partie au moins. Ce qui est certain, c'est que c'est pas là-dessus qu'ils seront jugés. Donc il a eu un plaidoyer pro domo, j'ai créé 2 millions d'emplois, j'ai fait ouvrir 300 usines, j'ai multiplié par deux le budget de l'armée, plus 60% celui de la justice, et derrière, voilà ce que je vais faire en 1000 jours, je vais réarmer l'école et la santé, je vais généraliser le service national universel et je vais renforcer le travail sur la transition écologique encore davantage. Moi, j'ai eu l'impression finalement que dans cette interview, le thème européen certes existait, mais qu'on a aussi le calendrier de ce qu'il va faire dans les prochains mois.
Pour le reste du quinquennat, Emmanuel Macron, qui désigne également le Rassemblement national comme son principal adversaire, ce n'est pas surprenant, dit-il, qu'il soit à 30%, analyse le président, qui ajoute, c'est le symptôme des peurs et des colères, il est haut, parce qu'il ne gouverne pas. Raphaël Kahn, vous partagez l'analyse du chef de l'État ?
Oui, et de ce point de vue-là, j'émettrai un bémol par rapport à ce que vient juste de dire Alban, c'est-à-dire, certes, ce sont des élections de mi-mandat, mais à la grosse différence des États-Unis, elles n'ont pas d'effet institutionnel. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les élections de mi-mandat ont précisément pour effet souvent de changer la majorité et donc de faire d'un président un lame duck, un canard boiteux, parce qu'il se retrouve avec deux années inutiles lorsqu'il est obligé de cohabiter aux États-Unis, ce qui ne sera pas le cas en France puisque les élections européennes n'auront pas d'incidence nationale et donc elles sont d'autant plus...
Si Jordan Bardella réalise le double, oui, par exemple...
Elles sont d'autant plus, voilà, de ce point de vue-là, un vote défouloir. C'est-à-dire que pour les électeurs n'ayant pas d'incidence directe, ils savent d'autant mieux qu'ils peuvent effectivement exprimer leur frustration, voire leur colère envers le pouvoir en place, sans pour autant que cela ait d'effets dévastateurs, parce qu'aujourd'hui, la principale hypothèque qui pèse quand même sur le Rassemblement national, c'est sa capacité à gouverner. Y aurait-il 33, 32, 35% même d'électeurs prêts à voter pour le Rassemblement national s'il était en capacité demain de saisir les rênes du pays ? C'est beaucoup moins sûr que pour des européennes.
Isabelle de Golemin.
Oui, moi j'ajoute juste que j'ai vu une définition assez drôle du « en même temps » dans cette interview. Il dit « le « en même temps », en fin de compte, c'est une double radicalité. Je peux aller plus à gauche que les gens de gauche et plus à droite que les gens de droite. » Et je trouve ça quand même assez étonnant. Et en même temps, c'est assez finalement tout à fait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Parlement. C'est-à-dire qu'on a de fait quelqu'un qui est ni à droite ni à gauche et qui du coup à la gauche contre lui, la droite contre lui, est quelque chose qui est assez ingouvernable. Alors là, du coup, il en appelle à la proportionnelle, puisqu'il dit « je voudrais qu'on arrive à faire cette réforme qui consiste à avoir un scrutin à la proportionnelle ». Ce qui permettrait effectivement sans doute plus ensuite de gouverner dans une optique où aujourd'hui on n'a plus de parti dominant. Donc le scrutin majoritaire,
réforme
le tour
n'arrive
ne
pas à faire
plus.
Pour l'instant.
Il n'arrive pas à faire, mais il veut la faire et peut-être que ça donnerait plus de stabilité au Parlement dans une optique un peu à l'européenne, d'ailleurs de coalition avec différents partis, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui le système majoritaire à deux tours n'arrive pas à créer une majorité de gouvernement.
Amélie Le Breton, pas de changement institutionnel, on va dire, si Emmanuel Macron et Renaissance perdent largement lors de ces européennes. Est-ce qu'il pourra tout de même diriger de la même façon si Jordan Bardella réalise un score historiquement haut et surtout très loin devant Valérie Ayer.
Alors, il le fera, c'est-à-dire que, comme il l'a annoncé, il utilisera ça. Ce qui va se passer dans les prochains mois, s'il y a une motion de censure sur un autre dossier, c'est au niveau national qui va être beaucoup plus fragilisé. Je voudrais juste revenir sur ce qui se passe au niveau européen. On parle beaucoup du match Bardella-Macron et donc Bardella, enfin l'ERN avec les macronistes et Renew Renaissance, mais il ne faut quand même pas oublier que dans l'architecture qu'on a aujourd'hui pour le vote sur 2024 des européennes, on a un affaiblissement des autres partis, parce que c'est pas un vote. La stratégie du RN, elle peut s'établir facilement parce qu'en face vous avez une faiblesse, que ce soit Europe Écologie Les Verts qui a jusqu'à présent arrivé à beaucoup amasser vers eux sur les derniers scrutins. On a vu de très belles envolées parce qu'ils avaient des têtes très fortes. Quand on voit Place Publique, il fait une très belle campagne, Raphaël Glucksmann, mais le PS est presque moribond derrière. LFI n'arrive pas avec sa candidate à prendre le dessus. Donc il y a ça aussi, il bénéficie de ça, Jordan Bardella, alors que normalement, les électeurs, c'est pas un vote rejet vers le RN, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire un peu une Europe différente. Et j'ai trouvé pour cette année, de la même manière qu'il y a 5 ans, qu'il y avait quand même beaucoup de choses autour des européennes. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de sujets autour de ces européennes, ce qui fait que les électeurs, ils parlent de cette élection. C'est pas juste un vote dont on n'aurait rien à faire. C'est vraiment une volonté d'envoyer un signal, pas forcément uniquement au président de la République, mais aussi à l'Europe telle qu'on veut la construire et à la réponse de sécurité et de souveraineté qu'aujourd'hui on a l'impression que uniquement le RN apporte.
Alban Micosi.
Oui, je voulais vous dire que demain va sortir sur France Télévisions et sur Radio France un sondage qu'on n'a pas le droit de donner pour l'instant, mais qui va nous dire pas mal de choses sur la perception de l'Europe. C'est pas un sondage d'intention de vote, c'est un sondage sur la perception de l'Europe. Et on y apprend notamment qu'un Français sur deux n'est pas encore très très sûr de comment s'organisent ces élections. Y a-t-il un ou deux tours? Est-ce que c'est la proportionnelle? Bref, il y a encore un grand travail de pédagogie à faire. Donc je peux pas en dire plus, malheureusement. Mais
on vous réinvitera.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire pour que les élections européennes soient comprises pour ce qu'elles sont.
Avec les intentions de vote, pour l'instant, qui donnent à peu près moins d'un électeur sur deux qui se déplacerait. Raphaël Kahn.
Moi, je ne suis pas du tout sûr que le RN prospère sur l'absence des autres, parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas une vague européenne qu'on observe dans tous les pays de progression des partis nationalistes. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une envie, qu'on le veuille ou pas, de changement, qui s'est exprimée déjà dans des pays comme l'Italie, par exemple, et qui a porté au pouvoir Mme Mélanie. Et on voit effectivement au Rassemblement national de plus en plus d'électeurs tentés par ce vote. Mais effectivement...
La figure de Jordan Bardella aussi, qui compte beaucoup de jeunes qui y adhèrent. On voit qu'il est très populaire, par exemple, sur certains réseaux sociaux.
Comme le dit justement Emmanuel Macron, il met au défi quand même l'électeur de dénoncer une seule proposition émise par Jordan Bardella concernant l'Europe lors de cette campagne des Européennes.
Il y a autre chose dans l'interview d'Emmanuel Macron dont on n'a pas encore parlé, c'est ce flou autour de la suite pour lui, puisque normalement il n'a pas le droit de se représenter, hein, c'est dans la Constitution. Et il a sorti une phrase magnifique.
Oui, il est le premier président, on va rappeler, hein, qui se retrouve face à cette nouvelle mesure de mandat maximum.
Et pendant l'interview, il dit une phrase, je vous la cite, « Quand on met des interdictions dans la loi, on capture en quelque sorte une part de la liberté des électeurs qui sont souverains. » Vous avez donc 4 heures pour réfléchir, comme si on était au bac de philo. À ce que veut dire cette phrase, à ce que veut dire Emmanuel Macron. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Et puis après, en fait, je me suis dit, mais c'est évident. Il y a un outil en communication politique qui est très fort, qui s'appelle le flou. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes flou, tout le monde peut interpréter comme il veut votre phrase. Donc, l'émetteur donne quelque chose à commenter. Et puis, dans quelques années, ou dans quelques mois, ou dans quelques semaines, il nous dira la vérité sur la vraie, enfin, sur ce qu'il estime être la justesse de ce que voulait dire sa phrase. Et pendant ce temps-là, on fait monter le désir parce qu'on se dit, ah, peut-il rester? Va-t-il essayer de rester?
Isabelle de Golemin, comment vous l'interprétez?
Je ne suis pas sûre qu'il y ait un grand désir.
C'est fou, c'est qu'il y a un loup.
Je ne suis pas sûre qu'il y ait un grand désir à la population que Emmanuel Macron fasse un troisième mandat. Et je ne suis pas sûre que ça soit forcément très démocratique. C'est-à-dire que effectivement, cette phrase qui veut dire « il ne faut jamais aller contre les électeurs », non, en démocratie, il y a des règles. Il y a des règles, effectivement, de longueur de mandat. Et heureusement, et c'est déjà très long par rapport à d'autres pays, parce que là, on l'aura eu longtemps, Emmanuel Macron, quand même. Donc, dans les pays les plus démocratiques, généralement, c'est 4-5 ans. Là, on est quand même parti sur 10 ans.
Deux quinquennats, effectivement, 2 x 5, 10, en attendant les européennes, la présidentielle, pardon, de 2027. On rappelle, les européennes, ce sera le 9 juin.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Parlons dans la dernière partie de ces informés, de cette reconstitution aujourd'hui à Nanterre, près de Paris, reconstitution de la scène de mort du jeune Naël, 17 ans, tué par un tir de policier fin juin 2023, drame qui avait entraîné, souvenez-vous, des émeutes d'une ampleur exceptionnelle dans de nombreuses villes. Si on se replonge 10 mois en arrière, Raphaël Kahn, on se souvient de l'émotion inédite, des tensions aussi de ce moment-là.
Oui, bien sûr, parce que ça avait provoqué des émeutes qui avaient fait, je crois, plus d'un milliard d'euros.
Un milliard d'euros de dégâts.
Et des écoles brûlées, des bibliothèques brûlées. On avait vu des maires totalement désemparés, souvent dans des quartiers déjà qui souffrent d'une absence parfois de services publics et d'un dépérissement. Et puis qui avait posé la question plus généralement de ce qu'on a appelé ici en France, en tout cas ce qu'une partie de la gauche désigne comme violence policière, qui est un terme qui est éminemment contesté par les syndicats de police et par les professionnels de la sécurité eux-mêmes. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes entre guillemets ici en France qui ont été pointés de longue date, sans remonter jusque aux voltigeurs qui avaient, on s'en souvient, de tristes mémoires, puisque Malik Oussekine en était mort en 1986. Il y a les LBD, les tasers, les grenades de désencerclement, Rémi Fraisse 2014. Il y a effectivement une doctrine de maintien de l'ordre en France qui régulièrement fait que, notamment dans les milieux de la gauche, mais pas seulement, on s'interroge sur la manière effectivement de contenir et de réprimer des manifestations, les fameuses NAS lors des Gilets jaunes, on s'en souvient, et des évolutions successives, mais qui n'ont pas fait taire, en tout cas, les critiques et le débat.
Isabelle de Golemin.
Oui, moi je me suis dit ce matin, en entendant cette reconstitution, que finalement c'est bien qu'il y ait un temps de la justice, qui n'est pas le temps des médias, qui n'est pas le temps des violences qui a eu en juin, et qui va permettre quand même de savoir, un, si le policier était en droit de répondre.
Sachant qu'on est encore dans le temps de l'enquête, voilà, et pas encore dans le procès.
Et ensuite aussi de voir pourquoi est-ce qu'il y a eu quand même une tentative des autorités policières au-dessus de masquer la vérité. S'il n'y avait pas eu de vidéo, on n'aurait jamais su exactement ce qui s'était passé. Et puis je me suis dit, c'est aussi peut-être l'occasion de reposer le problème calmement, effectivement, comme disait bien Raphaël, sur le rapport entre les policiers et les jeunes. Hein, Sébastien Roche le montre très bien. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a une très grande méfiance de la grande majorité
des politiques sécuritaires.
Et il y a une très grande méfiance des jeunes par rapport aux policiers qui ont le sentiment d'être trop vite contrôlés. Les policiers, eux, ont le sentiment d'être toujours en état de stress. Et puis, il y a aussi ce problème, au-delà de la manière dont la police réplique dans les manifestations, c'est le problème de l'utilisation de l'arme. On sait que les policiers ne sont pas assez formés pour utiliser leur arme. Et depuis 2017, ils peuvent quand même l'utiliser de manière beaucoup plus importante qu'avant. Avant,
c'est la loi sur le refus de coopérer. Oui.
Avant, c'était juste en cas de légitime défense. Maintenant, c'est plus important. Donc, ça leur donne une possibilité, effectivement, de dire eux-mêmes quand est-ce qu'ils peuvent et qu'ils peuvent pas, ce dont ce policier manifestement a usé. Et par rapport à ça, il faut sans doute plus de formation, plus d'information aussi, et donc retrouver un cadre. Donc c'est bien qu'il y ait ce temps de la justice, c'est bien qu'on puisse maintenant se poser tranquillement et se dire, comment est-ce qu'on améliore ces relations dans les banlieues entre les jeunes et les policiers.
Amélie Le Breton.
Alors, on parlait des armes des policiers. Moi, je voudrais souligner une autre arme qui fait autant de dégâts, qui est la rhétorique et la communication, parce que je suis d'accord, il faut absolument... Enfin, ce temps judiciaire, il est essentiel pour apaiser les choses, pour essayer d'analyser, de disséquer, d'observer ce qui s'est réellement passé. Parce que au-delà de l'affaire Nahel, il y en a eu beaucoup des affaires, c'est la problématique de la récupération, de l'exacerbation. Peu importe le camp, d'ailleurs, qu'on doit aussi observer. Aujourd'hui, les politiques ont une responsabilité, mais pas que les politiques, parce que dès que quelque chose arrive, il faut qu'ils prennent la parole, il faut qu'ils commentent, parfois sans rien savoir. Et derrière, il y a des conséquences, et des conséquences qui sont aussi... Alors, le mot est peut-être fort, mais peut-être pas meurtrière, mais qui ont un impact aussi fort que une arme avec des balles, parce que derrière, il y a des populations qui commencent à se haïr.
Ce qui précise, c'est la force des images aussi qui a joué, puisque c'est à partir du moment l'an dernier où on a eu accès à ces images de vidéos que finalement tout s'est enflammé avant Micosi.
Mais ces images, elles laissent des zones mystérieuses. Et, alors, je vais chausser mes lunettes parce que j'ai noté ce qui était important. La reconstitution, elle sera un moment déterminant de l'instruction, dit le parquet, parce que ça va permettre de déterminer ceux qui ont réellement entendu ce qui témoigne, parce que l'image montre un certain nombre de choses, mais ne nous donne qu'une partie de la vérité. Qu'ont réellement entendu ceux qui ont témoigné ? A-t-il dit « coupe » pour couper le moteur ou « shoot » Ce sont deux mots tout à fait différents, mais l'image ne permet pas de le dire. Et deuxièmement, vous savez, les passagers avaient parlé de coups de crosse qui avaient été... Ces coups de crosse, on les voit pas à l'image, on les a pas constatés sur le corps de la personne décédée, mais c'est un petit peu là-dessus que s'est construit le récit émotionnel. Donc cette reconstitution qui a duré 8 heures...
Des traces d'hématomes,
voilà,
tout de même.
Elle est là, elle est là pour établir ce qui est certain de ce qui est contestable. Et ça, effectivement, vous avez tout à fait raison de le dire, le temps de l'enquête est capital sur ce point précis pour faire baisser un peu l'émotionnel.
Enfin, ce qui explique la tension de l'époque et ce qui semble moins contestable, puisque avéré, apparemment, c'est que l'automobile dans laquelle se trouvait Nahel a quand même manqué de renverser un piéton et un cycliste auparavant, et ce qui explique l'état d'extrême tension des policiers lorsque la voiture a finalement achevé sa course, non pas par décision du conducteur, mais pour cause de trafic.
Isabelle de Golemin, on parlait...
Trafic routier.
On parlait de cette loi sur le refus d'obtempérer. Est-ce que la question du traitement des policiers par la justice se pose aussi pour vous de plus en plus ?
Ben oui, puis même aussi par leur propre administration. C'est-à-dire que là, on a quand même quelque chose qui n'est pas très clair dans la manière où ils ont été protégés par leur propre administration. Et donc ça fait quand même aussi partie de l'affaire Nahel. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu une fameuse fiche qui est sortie, la fiche Pégase, qui défendait complètement le policier. Et encore une fois, il n'y aurait pas eu la vidéo, on n'aurait pas eu cette version, et d'ailleurs, il y aurait sans doute eu beaucoup moins d'émotions aussi. Donc ça fait partie des éléments qui ont permis...
Et ça, la reconstitution, elle va aussi mettre à bas ce qui est faux dans la fiche de police.
Ça
sert aussi à ça, une reconstitution.
Et il y a quelque chose aussi sur qui est responsable de cette fiche. Quelle est la hiérarchie policière qui a pris cette décision ?
Et ce sera le mot de la fin ce soir dans Les Informés. Merci à tous les quatre d'être venus. Amélie Le Breton, Raphaël Kahn, Alban Micosi et Isabelle de Golemin. Isabelle, à la une de la Croix demain.
Un autre sujet, Gaza, l'université française sous tension. avec voilà, notamment le gouvernement qui réunit un certain nombre de spécialistes autour de l'antisémitisme en France.
Et un éditorial signé de votre plume à lire donc demain dans La Croix. Merci à tous les quatre. Très bonne soirée, les informés reviennent demain matin sur France Info.